enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Donc je vous invite à ouvrir votre Bible dans Galates, au chapitre 5, verset 22. Et nous lisons, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. » Voilà donc 9 éléments qui composent le fruit de l'esprit. Ce ne sont pas 9 fruits de l'esprit, puisqu'un arbre a un seul fruit, mais ce sont 9 composants du fruit de l'esprit. Nous avions déjà vu dans d'autres messages le fruit de l'esprit dans sa dimension d'amour et de joie. Et ce matin, nous allons partager ensemble le fruit de l'esprit, c'est la paix. On en parle beaucoup du mot paix, mais ça peut vouloir dire tellement de choses différentes. Alors on va voir surtout ce que la parole de Dieu en dit et ce que nous pouvons bénéficier de la paix. Nous allons voir que Dieu est celui qui s'appelle le Dieu de la paix. Jésus est le prince de la paix. La paix a son origine en Dieu. Toutes les autres paix sont des fausses paix qui peuvent nous tromper. La paix, c'est plus que l'absence de guerre. Des fois, les enfants, même, quand ils se disputent, ils disent « faisons la paix ». C'est-à-dire, ils ne se disputent plus. Mais la paix, c'est plus que ça. C'est plus que de ne pas avoir des querelles. La paix, c'est quelque chose de positif. Parce que s'il fallait chaque fois que Dieu se définisse par rapport au mal ou au péché, il n'existerait que en tant qu'opposant au péché, vous voyez, ou au diable, ou à tout ce qui est négatif. Mais ce n'est pas vrai. La paix de Dieu a existé avant que l'iniquité apparaisse. La paix a existé avant que la guerre n'apparaisse. Il n'y a pas eu d'abord la guerre, et puis il fallait inventer la paix pour que ça s'arrête. C'est important que nous voyons ça. Parce que nous sommes dans un monde de guerre où nous apportons la paix. Mais il nous faut voir que dans le royaume de Dieu, il y a la paix parce que nous avons un Dieu de paix et que si la guerre fait irruption, eh bien nous avons toujours ce Dieu de la paix qui peut nous aider. Alors le plus important, c'est de voir d'abord que il y a un mot qui est très connu, c'est le mot hébreu pour paix, c'est shalom. On se salue par shalom. Eh bien, shalom revient un petit peu aux origines du mot. C'est un mot, et tous les mots hébreux ont des mots racines, et il y a des mots qui sont des mots racines, qui s'étendent à plusieurs aspects de la vie. Eh bien, un des aspects du mot racine qui a donné shalom, c'est un mot qui veut dire entier, où il n'y a rien qui manque et rien qui est cassé. Ainsi, quand Jésus, et ça nous connaissons cette expression, quand il a dit à des gens qu'il a guéri, « Va en paix et sois guéri de ton mal », il a dit plus que juste « Tout va bien pour toi maintenant ». Comprenez ce que je veux dire? Parce que nous disons « Va en paix », quand on ne pense pas à la puissance spirituelle qu'il y a derrière le shalom de Dieu, on pense juste « Tout va bien, allez, ça va aller ». Mais pour Jésus, c'était plus que ça. Quand il disait « va en paix », ça veut dire « je te donne maintenant tout ce qui est nécessaire pour que tu sois entièrement restauré, rétabli, guéri, délivré. Il y a tout dedans. Sois guéri de ton mal. » Alors la femme, par exemple, qu'il avait touchée par derrière, qui avait senti qu'une puissance était sortie de Jésus, rentrée en elle, quand Jésus lui dit « va en paix », ça voulait dire quelque chose pour elle. Elle a compris ce que ça voulait dire. Que nous, peut-être lecteurs du XXe siècle, ne comprenons pas la puissance et la profondeur de la paix que Jésus communiquait. Mais nous pouvons dans l'esprit le découvrir. On n'a même pas besoin de faire de l'hébreu pour ça. L'hébreu peut nous aider, mais l'esprit de Dieu peut nous aider plus. Tout le monde dit amen.
Amen.
Parce que vous n'allez peut-être pas faire d'études d'hébreu, mais vous avez le Saint-Esprit en vous qui peut vous conduire dans toute la vérité. Nous ne sommes pas orphelins. C'est pas comme si nous manquions de quelque chose. Nous avons le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Donc notre Père Céleste a des bons projets pour nous. Nous connaissons Jérémie 29, 11, souvent pris comme un verset de base pour parler des bénédictions de Dieu pour ses enfants. Eh bien, Jérémie 29, 11 dit ceci, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Projet de paix et non de malheur. Dieu a des projets de paix. Vous pouvez le dire ensemble ? Dieu a des projets de paix pour moi. Pour moi. Et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors l'avenir, on pense souvent aux jeunes. Les jeunes ont l'avenir devant eux. Et l'avenir, il est aussi pour chacun d'entre nous. Abraham était dans cette situation où il se demandait, est-ce qu'il y aura encore un avenir? Il était âgé, il n'avait pas de descendants. Mais par le miracle de Dieu, eh bien, il y a quelque chose qui s'est accompli et qui a comblé la vie d'Abraham. Donc ce mot shalom signifie tout entier. Ainsi qu'on peut dire que quelqu'un n'a pas vraiment la paix de Dieu, il n'a pas vraiment le shalom de Dieu s'il lui manque quelque chose. J'ai dit cette définition, rien ne manque et rien n'est brisé. D'accord ? Rien n'est détruit. Ça veut dire que s'il y a quoi que ce soit qui ne marche pas dans notre vie, nous ne sommes pas dans la paix de Dieu. Mais Dieu a le projet de paix pour nous. Nous ne devons pas juste essayer d'avoir la moyenne. Vous voyez, il y a des choses qui ne vont pas, d'autres qui vont bien, et donc globalement, je peux considérer que ma vie va assez bien. Dieu n'est pas satisfait avec le assez bien, ni avec le passable. Il veut le maximum pour nous. Pourquoi ? Parce que ça lui a coûté Jésus. Alors il se dit, je ne veux pas me contenter pour mes enfants du minimum, mais il veut le plus. Dieu peut faire, et un de mes favoris, une de mes déclarations, Éphésiens 3:20, Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Demandons et pensons plus pour Dieu. Donc, quand dans 3 Jean 2, nous lisons « Bien-aimé », que Dieu nous dit cela, « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme », eh bien, ça veut dire ce que ça veut dire. Prospérer à tous égards, à tous égards. Vous avez la vraie paix de Dieu quand vous prospérez à tous égards. Bonne santé incluse, travail, famille, relations, tout, prospérer à tous égards. La paix est un gage de prospérité. Partout dans le monde où il y a eu des guerres, il y a eu destruction, misère. Dieu n'avait pas placé l'homme et la femme sur une planète sans ressources. Mais il a créé ce monde merveilleux pour nous, pour qu'il y ait tout ce dont nous avions besoin. Mais chaque fois que l'homme, par la destruction, par la guerre, a ruiné, eh bien, on voit ce que ça donne. Et ailleurs, là où la paix et s'est instauré, ça a toujours été un gage de prospérité. Et il se trouve même que le diable, dans les derniers temps, va vouloir utiliser cela. Par le passé, il a tellement utilisé la destruction, parce que c'est dans sa nature de destructeur, mais maintenant il va utiliser une nouvelle séduction, qui va être une ère de prospérité et d'unité mondiale, qui va effectivement conduire à plus de prospérité par la paix. Parce que Jésus a dit d'une manière prophétique, quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine viendra sur eux. Donc il y a une séduction qui va venir au travers de ça. Mais ce n'est pas à dire que nous soyons contre la paix et la prospérité, puisque c'est dans la nature de Dieu. Mais le diable va une fois de plus essayer de pervertir ce que Dieu veut donner de bon. Alors la première chose qu'il nous faut voir dans la paix, c'est d'être en paix avec Dieu. Nous allons voir ce matin ensemble la paix avec Dieu. Nous allons voir la paix de Dieu. Nous allons voir le Dieu de la paix. Nous allons voir comment être un enfant ou un homme de paix. Et puis, nous allons voir aussi que nous avons la paix, non pas comme le monde a la paix, mais comme Jésus seul peut donner la paix. Mais d'abord, et il faut commencer par là, il faut faire la paix avec Dieu. Dans Romains 5, il nous a écrit la chose suivante. Et j'aime beaucoup ce passage, au verset 8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, et ailleurs il est dit quand nous étions encore ses ennemis, nous sommes, par notre nature pécheresse, ennemis de Dieu. Tout ce que nous faisons se dresse contre l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas vrai? Quand vous laissez l'homme aller à sa tendance naturelle, il ne fait pas le bien. Sa nature mauvaise le domine et il fait le mal. Et donc, dans Romains 5, 1, il nous est dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. » Est-ce que vous demeurez fermes dans votre paix avec Dieu? Tout enfant de Dieu, à un moment donné, fait cette alliance, qui dans la Bible est décrite comme une alliance de paix souvent, cette alliance avec Dieu. Avant, vous étiez ses ennemis. Ce que vous faites, ce que vous faisiez plutôt, a fait que Dieu a dû envoyer Jésus pour mourir sur la croix. C'était à cause de vous. Tout le monde dit, à cause de moi. À cause de moi. Ce n'était pas à cause de celui qui est assis à côté de vous, c'est à cause de vous. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que Dieu peut agir dans notre vie quand on commence à se voir soi-même dans la situation. À cause de nous. Mais il nous est dit, quand nous sommes justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Alors combien d'entre vous, vous avez la paix avec Dieu ce matin? Vous l'avez si vous êtes justifié par la foi. Mais qu'est-ce que ça veut dire être justifié par la foi? Il faut se poser la question, est-ce que je suis vraiment en paix avec Dieu? Parce que des fois, nous pensons que sur la base d'une déclaration que j'ai faite il y a des années, je suis maintenant en paix avec Dieu. Mais dans 1 Jean 1, au verset 9, un passage qui est très connu, il nous est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Combien d'entre nous avons eu besoin souvent de venir à ce verset et de trouver du soulagement, de trouver du secours, parce que la promesse est là, si nous confessons nos péchés. Il est dit un peu plus haut, au verset 7, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, il y a le fait d'avoir la foi dans l'œuvre de Jésus. Il y a le fait d'avoir la foi dans le sang qui purifie. Mais il y a aussi quelque chose de plus ici pour rester en paix avec Dieu, c'est de marcher dans la lumière. Vous voyez, je ne peux pas dire je marche dans la lumière et constamment me livrer au péché. Et chaque fois de nouveau revenir à Dieu et revenir au péché, revenir à Dieu et revenir au péché. Et dire, tout va bien, j'ai la paix, je suis en paix avec Dieu. Ça ne va pas. Il nous faut découvrir quelque chose de plus dans ce verset 9, quand il est dit, si nous confessons nos péchés, cela veut dire parler de la même façon que Dieu parle, voir les choses comme Dieu les voit. Si je considère qu'un péché a fait que Jésus doive mourir sur la croix à cause de ce péché, je commence à prendre le péché au sérieux. D'accord? Je ne joue pas avec. Je dois donc méditer là-dessus pour voir les choses comme Dieu les voit. Je vois que ce péché non seulement cause ma destruction, mais qu'en plus, je ne suis pas au bénéfice des grâces de Dieu. Je ne suis même pas capable de les recevoir par la foi. Donc, confesser son péché, c'est plus que dire simplement « Seigneur, je regrette ». Mais je crois en ton sang précieux et je continue. C'est plus que ça. Je ne vous demande pas maintenant de vous mortifier ou d'essayer de souffrir pour vos péchés. Un seul l'a fait. Je demande simplement de prendre du temps pour méditer, de considérer ce que l'œuvre de Jésus a été pour vous. Et cela va vous aider pour vous sortir de certaines situations. Regardons encore par rapport à la paix avec Dieu quelques passages. Deutéronome 29, 19 nous dit la chose suivante. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance, contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix quand même je suivrai les penchants de mon cœur ». Voyez, La Bible est très claire. Elle dit, ne vous trompez pas vous-même. C'est Jacques qui le disait. Ne vous trompez pas vous-même par des faux raisonnements. Un faux raisonnement, c'est celui-là. J'ai une alliance avec Dieu, j'aurai la paix à cause de cette alliance, même si je suis les penchants de mon cœur. Eh bien, la Bible est là pour dire, ne vous y trompez pas, que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance, ne dise ça. Ne le dites pas, ne le pensez pas, ne pensez pas que vous allez avoir la paix en suivant les penchants de vos cœurs. Ça ne marche pas. C'est la Bible qui le dit. C'est pas moi seulement, c'est la Bible. Autre passage, très intéressant, dans 2 Rois 9, au verset 22. C'était l'histoire de Jéhu qui avait été oint par Élisée pour être un libérateur d'Israël, pour être le bras vengeur de Dieu. Et ce Jéhu, il vient pour mettre de l'ordre alors que Jézabel avait régné. Cette méchante femme qui adorait les idoles et qui faisait toutes sortes d'abominations, eh bien, Jéhu a été l'instrument entre les mains de Dieu pour faire le nettoyage. Et quand Jéhu s'est approché, eh bien, on lui demande, Joram lui demande, dès que Joram vit Jéhu, il dit, est-ce la paix, Jéhu? Ils étaient intéressés de savoir, est-ce qu'il veut nous faire la guerre ou la paix? Jéhu répondit, quoi? La paix, tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de ses sortilèges. Ça, c'est un homme de Dieu, vous voyez, un prophète de Dieu. Il dit, il n'y a pas de fausse paix. Je ne vais pas faire de compromis ni d'alliance avec des gens comme vous. Des sortilèges, des prostitutions, et vous voulez avoir la paix. Et puis, finalement, ce Jéhu entre dans la ville, et Jézabel lui parle au verset 31, elle dit, est-ce la paix? Nouveau Zimri, assassin de son maître, que Zimri c'était un des chefs d'un roi qui avait tué le roi et pris sa place. Donc elle ironise encore, elle se permet de le provoquer. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait plusieurs personnes autour de la reine, et puis il dit, qui est pour moi? Jetez-la par la fenêtre. Alors ils l'ont jetée par la fenêtre, elle est tombée, elle était morte, et après les chiens sont venus la dévorer. Voilà, ça c'est des choses qui se passent, mais ça c'est des situations, on pourrait dire, extrêmes. C'était une personne qui était profondément engagée dans l'idolâtrie et dans la sorcellerie et a commis je ne sais combien d'atrocités. Mais donc, il y a des situations où nous pourrions être tentés de faire une fausse paix. Il y a eu un moment aussi, dans Ésaïe 27, non, c'était pas Ésaïe 27, c'était du temps du siège de Jérusalem, dans Ésaïe 36, 16. Le roi d'Assyrie a fait dire aux gens qui étaient dans Jérusalem et au roi, n'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier. Chacun boira l'eau de sa citerne. Ça, c'est la paix du diable, celle qu'il propose par compromis. Rendez-vous, et ça ira bien pour vous. Ne soyez pas tellement radical. Ne soyez pas tellement obstiné. Cherchons un compromis ensemble, et ça ira bien pour vous. C'est une fausse paix qu'il nous faut dénoncer, quand il veut des fois nous faire lâcher sur certaines choses. Voyons encore d'autres aspects de la paix avec Dieu. Ésaïe 48... Ésaïe 48, non. Et Jérémie 23, 7, pardon. Jérémie 23, 7 nous dit la chose suivante. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Voilà ce que disaient les faux prophètes. À un autre endroit, ils disaient paix, paix, et il n'y a point de paix. Donc il est important justement, avant de rentrer dans ce que c'est vraiment le fruit de l'esprit qui est la paix, de comprendre tout ce qui peut être une fausse paix. Et de comprendre que notre situation doit d'abord être droite devant Dieu. Si nous sommes des mauvais chrétiens, les gens vont regarder à nous et diront « ce Dieu, je n'en veux pas ». C'est aussi grave que ça. Et ça, c'est une chose que l'Éternel n'accepte pas. quand à cause du péché d'un serviteur de Dieu ou même de chrétiens, nous sommes tous appelés à servir Dieu, quand à cause de nos péchés, des gens se détournent et ne veulent plus venir adorer Dieu et ne veulent plus servir l'Éternel, alors Dieu dit, il faut maintenant que j'intervienne. Il est patient, il attend longtemps, mais il y a un moment où qu'est-ce qui est le plus important? C'est la vie des gens. C'est la vie des gens qui est en cause. Ils ne sont pas attirés par celui qui est le Dieu de la paix, parce que les enfants de Dieu qui devraient être des enfants de paix n'ont pas la paix de Dieu en eux. Ils n'ont pas la paix de Dieu et ils n'ont même des fois plus la paix avec Dieu. Et ça, c'est grave. Donc, nous devons revenir, c'est pour ça que je reviens à la base et je trouve c'est bien qu'au début de ce message, ça soit très clair. N'importe qui peut l'écouter et peut savoir qu'il doit prendre au sérieux sa relation avec Dieu. Pas dire simplement, j'ai donné ma vie à Jésus il y a 20 ans et maintenant tout va bien. Non, tout va bien si tu marches continuellement dans la lumière, si tu marches dans la foi, si tu as conscience de la valeur du sang de Jésus. Alors, tout commence à aller bien. Avant cela, ce n'est qu'une fausse espérance. Et nous ne sommes pas là pour donner aux gens de fausses espérances. Et je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je tremble pour des gens qui auront été des leaders de certaines religions, qui auront égaré des millions et des milliards après eux en leur donnant de fausses espérances, en leur donnant l'espérance d'un salut basé sur des doctrines humaines plutôt que sur la parole de Dieu. Mais nous, nous avons cette responsabilité devant Dieu, nous annonçons la paix avec Dieu. Alléluia! Nous avons la paix avec Dieu par notre foi en Jésus-Christ. Et maintenant, ce qui est mieux encore que la paix avec Dieu, parce que c'est juste le début, c'est que nous pouvons avoir la paix de Dieu. Beaucoup de chrétiens aussi, ils ont la paix avec Dieu, ils ont fait la paix, mais ils ne savent pas comment vivre la paix avec Dieu. La paix de Dieu, avoir cette paix qui demeure en eux. Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble. Nous pouvons lire dans Job, chapitre 22, verset 21, il nous a dit, « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. » On ne peut pas vivre simplement une vie chrétienne du dimanche où on dit « J'ai la paix » avec Dieu, toute la semaine je fais ce que je veux, et puis je veux quand même jouir du bonheur. Et on se tourne vers Dieu quand ça ne va pas. Non, regardez, quand vous voulez vraiment jouir du bonheur, qu'est-ce qu'il faut faire? S'attacher à Dieu. S'attacher à Dieu, ça veut dire le rechercher. Chercher sa communion, tous les jours, constamment, lui parler, l'entendre. Il y a beaucoup de gens qui veulent parler. Eh bien, je vais vous donner un bon conseil, parler à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de s'exprimer. Vous pouvez parler à Dieu et il va vous écouter. Il sera constamment à l'écoute. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu auras la paix. Attaché, ça veut dire quelque chose qui demeure. C'est aussi le sens de ce que nous lisons dans Ésaïe au chapitre 26. Un verset très très important pour notre stabilité spirituelle. 26, verset 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. » La paix parce qu'il se confie en toi. À celui qui est ferme dans ses sentiments. Et vous avez tous expérimenté quoi? Vous avez expérimenté des hauts et des bas, n'est-ce pas vrai? Quel est celui qui n'a jamais été une fois en haut, une fois en bas? Et ça nous arrive tous, et c'est le principe même de l'enfance spirituelle. Un enfant est ballotté. Il a besoin de sécurité. Eh bien, ici, nous avons cette assurance dans la confiance en Dieu et dans la fermeté de nos sentiments. Je ne vais plus jamais dire « Que se passe-t-il? Je me sens déprimé aujourd'hui. Peut-être Dieu m'a abandonné » ou des bêtises comme ça. Je ne dirai plus jamais ça. Quelle stupidité pour nous qui avons un petit peu d'expérience dans la parole de Dieu, de dire que Dieu nous a abandonnés. C'est le langage du diable. On peut le pardonner à quelqu'un qui est dans l'ignorance et qui peut penser que Dieu l'a abandonné. Mais à nous, nous n'avons pas le droit de dire que Dieu nous abandonne. Il y a tellement de promesses dans la parole de Dieu, même celle qui dit, même si mon père ou ma mère m'abandonnait, eh bien je ne te délaisserai jamais. Il y a tellement de promesses concernant le fait que Dieu ne nous abandonne pas, que nous n'allons plus jamais déclarer ce genre de choses. Donc c'est la fermeté dans nos sentiments. Fermeté dans nos sentiments, ça veut aussi dire, je m'attache à Dieu. Je vais me consacrer à la prière, je vais me consacrer à la lecture de la parole, je vais me consacrer pour que Jésus grandisse en moi. J'ai pas envie ce matin de me lever, eh bien, je vais le faire tout de même. Je vais être ferme dans mes sentiments. Tenez donc ferme. Combien de fois y a-t-il cette expérience de l'apôtre Paul qui dit « Tenez donc ferme ». Eh bien, c'est une des conditions pour avoir la paix assurée. Vous voulez avoir la paix en permanence? C'est pas juste de temps en temps un moment de relâche. Ouf, on est dans le stress toute la journée et le soir, un peu de paix. Non, ça c'est le monde qui recherche un peu de tranquillité. Alors pour faire ça, ils s'assoient dans le fauteuil, ils mettent la télé. Et c'est la mauvaise technique pour avoir la paix, parce qu'elle ne communique pas la paix. La paix vient de Jésus. Eh bien, ici, il nous est dit que la paix, celle qui est à l'intérieur, elle vient quand on se confie en Dieu et quand on est ferme dans ses sentiments. Rappelez-vous de Philippiens 4, qui est la formule, je dirais, de Dieu pour nous sortir du stress, pour nous sortir du découragement et de la dépression. Philippiens 4, versets 6 et 7. On va prendre le temps de bien les lire. Ne vous inquiétez de rien. Combien d'inquiétudes veulent nous ronger chaque jour, nous enlever notre force et veulent nous empêcher de voir comment Dieu va intervenir. Et on essaye soi-même de trouver des solutions. Il nous est dit, mais ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Quand des gens viennent me demander conseil, ou me disent que ça va pas, et qu'ils aimeraient partager tout ce qu'il y a dans leur cœur, je peux leur demander, est-ce que tu as fait connaître tes besoins à Dieu? Est-ce que tu as fait des prières, des supplications, des actions de grâce? La plupart du temps, s'ils sont honnêtes, la réponse doit être non. On n'a pas pris le temps. On a regardé les choses que d'une façon humaine. Comment trouver des solutions? Et encore, on cherche des solutions auprès de l'homme. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu capables d'aider, mais c'est que nous cherchons des solutions auprès de l'homme, là où nous avons une solution auprès de Dieu. Et, verset 7, « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Il est dit que cette paix montera la garde autour de vos pensées, comme un garde en armes. Et cette paix fait le tour de vous, elle vous entoure et monte la garde autour de votre cœur et de vos pensées. Mais, une fois de plus, vous ne pouvez pas avoir bénéfice de la paix de Dieu si vous ne faites pas l'autre part. S'il n'y a pas de prière, ni de supplication, ni d'action de grâce, pourquoi supplier? Ce n'est pas pour que Dieu ait pitié de nous et qu'il se laisse fléchir. La supplication sert à voir la profondeur de votre désir de voir Dieu intervenir. C'est vous qui suppliez, c'est vous qui exposez votre âme. Je ne vois pas beaucoup de supplications, j'aimerais en voir un peu plus. Des supplications, des actions de grâce, il faut en entendre davantage encore. Cette paix intérieure, nous pouvons la recevoir. Colossiens 3, puisqu'on est dans Philippiens, on tourne la page, et on a Colossiens 3, au verset 15, il nous est dit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Encore les mêmes choses. Il écrivait les mêmes choses à toutes les églises parce qu'elles en avaient besoin. Elles étaient toutes composées de gens comme vous et moi. Elles étaient toutes pareilles. Et eux aussi, ils avaient besoin d'action de grâce. Ici, c'est soyez reconnaissants. Ils avaient besoin de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ici, il nous est dit, c'est la paix de Christ. Et nous en avons besoin. Besoin pour faire quoi? Pour former un seul corps. Nous ne sommes pas seuls, isolés. Nous avons besoin d'aller au rassemblement, de nous joindre au corps de Christ et d'être un instrument entre les mains de Dieu, là où il veut nous employer. Et pour ça, nous avons besoin de la paix de Dieu. Et pourquoi il y a toutes les autres choses au verset 12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » L'apôtre Paul savait bien qu'il y aurait des problèmes entre les gens, des problèmes de relations, des problèmes où il y a des disputes des fois. « Supportez-vous les uns les autres. » Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, qu'est-ce qu'il est dit ? Pardonnez-vous réciproquement. Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais dans toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Ici, il nous est dit que c'est l'amour qui est le lien de la perfection, et ailleurs, il est dit que c'est le lien de la paix. Mais donc, vous voyez que ces choses sont intimement liées. Il y a la paix intérieure, la paix de Dieu, que vous devez expérimenter chaque jour. Vous devez demeurer dans cette paix de Dieu. Beaucoup de choses veulent vous enlever cette paix, mais demeurez dans la paix de Dieu. Faites la paix avec Dieu et demeurez dans sa paix. Il y a une paix aussi extérieure, dans le sens qu'elle nous assure la protection. C'est aussi une paix de Dieu, et vous voyez donc, la paix de Dieu, c'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose d'actif. Et qu'est-ce qu'elle produit, cette paix de Dieu ? Elle produit la sécurité. C'est dans le psaume 4 au verset 9. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. C'est parce que j'ai la paix avec Dieu et parce que je suis dans la paix de Dieu, que je suis assuré de la sécurité de Dieu. » Actuellement, nous sommes dans une période de vacances dans notre pays. Alors, il y a des gens qui partent en vacances. Et donc, dans le monde, eh bien, on est de plus en plus inquiet pour les cambriolages et tous les problèmes qu'il peut y avoir. Et donc, il y a tout un marché qui se développe au niveau des systèmes de sécurité. Et donc, nous avons une garantie de sécurité. Nous avons le psaume 4, verset 9, où nous pouvons dire, non pas avec prétention, non pas « Dieu va me garder, tout va bien aller ». Certains le font comme ça, et après ils se réveillent avec des lendemains qui font pleurer parce qu'ils avaient une fausse espérance. Mais celui qui se couche et s'endort en paix, dans la paix de Dieu, c'est qu'il sait en qui il croit. « Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure ». Donc, il y a une sécurité et une protection, dont on parle beaucoup dans l'Ancien Testament, parce que les peuples étaient constamment en guerre. Et donc, la paix, dans le sens sécurité physique, eh bien, était une de leurs préoccupations majeures. Peut-être que ce n'est pas notre préoccupation majeure, quoiqu'il y a certaines personnes, quand on parle des quartiers sensibles, ou certaines régions difficiles, ou même certains pays du monde, eh bien, la sécurité est encore un des grands besoins que nous avons. L'homme a besoin de sécurité pour s'épanouir. Et cette sécurité vient de Dieu. Et maintenant, dans Philippiens 4, il nous était dit que si nous prions, si nous supplions Dieu, si nous sommes reconnaissants, si nous lui confions nos problèmes, bien la paix de Dieu vient en nous. Cette paix va régner en nous. Et il apporte une touche supplémentaire dans la suite du passage et dit, voilà, donc la paix de Dieu garde vos pensées. Dans quel état ? Eh bien, ces pensées, voilà de quoi elles seront composées. Au verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Tout le monde dit, pratiquez-le, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Donc cette fois-ci, vous n'avez pas seulement la paix avec Dieu, ni la paix de Dieu, mais vous avez le Dieu de la paix lui-même. Lui-même. Et donc c'est toujours dans cette pensée de rechercher non pas seulement la bénédiction de Dieu, mais de rechercher lui-même. C'est vrai que nous sommes humains, nous venons à Dieu avec des besoins. Et Dieu n'est pas choqué de ça. Il nous connaît, il sait quels sont nos besoins. Mais plus que ça, il désire que nous le connaissions, lui, le Dieu de la paix. Vous savez que Le Seigneur s'est révélé dans sa parole par certains noms. Par exemple, il y a des noms comme l'Éternel qui pourvoit, l'Éternel qui libère, l'Éternel qui sanctifie, il y a l'Éternel notre justice. Tous ces noms sont des noms qui sont apparus dans la parole de Dieu au fur et à mesure et qui chaque fois montraient un autre aspect de Dieu et de sa personnalité, de sa nature. Eh bien, la façon dont il s'est révélé, c'était à Gédéon, dans Juges, au chapitre 6, verset 24. Eh bien, Gédéon lui a construit un autel et il l'a appelé l'Éternel, notre paix. C'était donc Jéhovah Shalom, Shalom. Il a compris que Dieu était le Dieu de la paix. Et après, il y a d'innombrables passages qui nous parlent de ce nom de Dieu attaché à la paix. Par exemple, dans Romains 15, que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Au verset 33. Romains 16:20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Voilà des salutations qu'il donnait. Il est dit en Philippiens 4:9, donc le Dieu de paix sera avec vous. Et je pourrais encore en trouver d'autres dans Thessaloniciens 5:23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc toutes ces façons où Dieu s'est révélé comme étant le Dieu de la paix et que ces hommes qui avaient eu cette révélation l'appelaient comme tel. Le Dieu de la paix. Hébreux 13:20 dit aussi que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Donc constamment ce Dieu de la paix. Et Jésus lui-même est appelé le prince de la paix. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire, Jésus le prince de la paix, Dieu de paix? C'est-à-dire qu'il a cette paix en lui. Il a la paix. Quand il a dit que la paix soit avec vous après la résurrection, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a communiqué cette paix. Ils ne l'avaient pas. Ils n'avaient pas la paix. Ils étaient dans l'inquiétude. Ils étaient cachés. Ils avaient fermé toute la maison. Ils s'étaient barricadés. Mais quand Jésus dit, et il dit que la paix soit avec vous, littéralement, il a dit, paix vous soit. Je vous donne le shalom. Et ils ont reçu cette paix. Et c'est cette paix qui les a conduits à avoir de l'audace à sortir après et à prêcher. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Parce qu'il connaissait le prince de la paix. La paix vient de lui. Ésaïe 53:5 nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est à cause de ça que nous avons la paix. Donc, venons-en maintenant d'une façon très pratique à nous, en tant qu'enfants de Dieu. Avec tout ce que nous avons entendu de la paix, comment se fait-il que nous ne soyons pas davantage des enfants et des hommes de paix? Eh bien, pour la même raison que pour tous les autres aspects du fruit de l'Esprit. Que nous avons le Saint-Esprit en nous, mais que si nous ne faisons pas ce qui est nécessaire et si nous ne laissons pas développer la vie de Dieu en nous, cette paix ne va pas grandir. Donc nous avons un enfant de paix, c'est dans Luc 10, c'est quand Jésus a envoyé les 70, il a dit « Allez dans les maisons » et au verset 5 « Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. » Qu'est-ce qu'ils faisaient en disant que la paix soit sur cette maison? Le shalom de Dieu. C'est-à-dire qu'ils appelaient la bénédiction et en même temps ils prenaient autorité dans le nom de Jésus sur tout ce qui était du diable dans cette maison. Donc il y avait une confrontation, il y avait une bataille. S'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Ça veut dire s'il y a quelqu'un qui veut le recevoir, qui est ouvert pour le recevoir, votre paix peut se communiquer. Et sinon, qu'est-ce que passe-t-il? Sinon, elle reviendra à vous. Elle reviendra à vous. C'est comme si concrètement, nous nous promenons avec ce cadeau en nous. Et nous voulons le donner autour de nous, mais si les gens ne le reçoivent pas, ce n'est pas quelque chose qui nous est enlevé. voyez, vous pouvez donner la paix et vous en avez toujours autant. Ce n'est pas comme si vous avez un cadeau et vous le donnez, après vous l'avez plus parce que vous l'avez donné. Mais la paix, c'est quelque chose, vous la communiquez et en même temps, elle demeure en vous. Il est même dit que si la personne ne le reçoit pas, ça demeure en vous. Donc, un enfant de paix, c'est aussi chacun d'entre nous qui avons fait une alliance de paix avec Dieu. Ésaïe 54, 10 nous parle d'une alliance de paix. Nous avons la paix avec Dieu, nous avons la paix de Dieu en nous et nous apportons la paix. Matthieu 5, 9 nous dit la chose suivante. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous connaissons les enseignements concernant les petits-enfants, les jeunes gens et les pères en Christ. Beaucoup de restent au stade de petits-enfants. Ils sont contents, leurs péchés sont pardonnés. Ils s'arrêtent là. Mais ici, il nous est dit, ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Les fils sont ceux qui ont grandi en Jésus-Christ. Et ils sont capables maintenant de procurer la paix. Quand vous allez quelque part et qu'il y a le trouble, vous n'êtes pas troublé. Un enfant est troublé parce qu'il est impressionné par son environnement. Mais quelqu'un qui a la paix et qui arrive quelque part, même quand il y a du trouble, sa paix peut même s'imposer dans l'endroit. Il peut exercer son autorité. Ceux qui sont en fils de Dieu procurent la paix. Marc 9, 50 nous dit « Soyez en paix les uns avec les autres ». Nous devons être des enfants de paix, devons voir ce fruit de l'esprit. Ce fruit de l'esprit, ce n'est pas rechercher des querelles, ce n'est pas faire sans cesse des disputes de mots, ce n'est pas sans cesse vouloir avoir raison, ce n'est pas sans cesse critiquer. Ce fruit de l'esprit qui est la paix, c'est de rechercher qu'il y ait toujours la paix entre nous. Refuser toute calomnie, refuser toute méchanceté, ça c'est marcher dans l'esprit. Ça c'est laisser se développer le fruit dans l'esprit. Et cela, nous devons le rechercher. On ne doit pas se dire, je suis assis là, peut-être ça va me tomber dessus. Si Dieu le veut, ça tombera dessus. Sinon, je ne l'aurai pas. Non, nous sommes responsables de le rechercher. J'ai ici quatre passages différents où il nous est dit de rechercher. Quand je dis rechercher, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Hein? Rechercher ne veut pas dire que ça nous tombe dessus. Rechercher veut dire quelque chose d'actif. Dans 2 Timothée 2, 22, c'est le premier passage, disons la chose suivante. Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Quelqu'un pourrait peut-être me dire, mais moi je suis chrétien depuis longtemps, donc les passions de la jeunesse, ça ne me concerne plus. Ce n'est pas une question d'âge. Quel que soit notre âge, nous pouvons avoir un comportement qui est celui que nous voyons dans la jeunesse. Jeunesse, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas de maîtrise, qui n'a pas de sagesse et qui se laisse aller, qui se laisse emporter. Mais ici, il nous est dit « recherche la justice, la foi, la charité » et il nous est dit « la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur ». Il n'est pas dit une fausse alliance avec des gens qui ne sont pas croyants ou qui font semblant de l'être. Il est dit la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ça, c'est Paul qui l'a dit. Ensuite, il y a l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dont nous ne savons pas qui c'est. Hein. Personne ne sait qui c'est, cet auteur. Il ne nous est pas révélé. Mais il a écrit au chapitre 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Peut-être certains sont très forts pour prêcher la sanctification et dire « sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur ». Mais ici, il est dit « ceux qui ne cherchent pas la paix ne verront pas non plus le Seigneur ». Recherchez la paix avec tous. Ce n'est pas quelque chose « j'aime juste que je veux bien aimer et avec cela je suis bien ». Recherchez la paix avec tous. Ensuite, qui avons-nous encore ? Jacques. Nous avons Jacques. Chapitre 3, verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Ceux qui recherchent la paix, ils voient un résultat. Ils voient qu'au travers de leur paix, ils peuvent semer le fruit de la justice. Et fruit de la justice veut dire récolte. Fruit égale récolte, d'accord? Pensez ce raisonnement, semer, fruit, récolte. Parce que c'est l'objectif. On ne sème pas juste comme ça. On sème pour qu'il pousse quelque chose. C'est lorsque vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Jean 15. Pas autrement. Il ne sera pas juste glorifié parce que vous occupez la terre inutilement. Hein, c'est l'histoire de l'arbre qui était là et il n'y avait jamais de fruits. Et puis il a dit, on va le couper parce qu'il ne sert à rien. Et puis, ils ont eu compassion. Ils ont dit, on va le laisser encore un petit peu. On va mettre du fumier, on va voir si ça s'arrange. Donc pour nous aussi, le Seigneur montre beaucoup de patience, mais il veut voir du fruit. Et ce fruit, est en rapport avec le fait que nous recherchions la paix. 1 Pierre 3,11, voilà Pierre qui, on peut dire qu'il s'y met aussi. Là, on a Paul, on a Jacques, on a Pierre, on a l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et ils disent tous la même chose, que si quelqu'un veut voir des jours heureux, etc., qu'il s'éloigne du mal, qu'il fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Et la poursuivre, c'est encore plus. Imaginez, vous cherchez quelque chose, un objet, d'accord? Vous le cherchez, vous le voyez, il est là, vous le ramassez, d'accord? Mais si c'est maintenant, je ne sais pas, si vous avez un animal domestique, vous voulez attraper le chat et vous le cherchez partout, vous finissez par le trouver, mais au moment où vous voulez le saisir, il s'échappe. Eh bien là, on peut prendre cette image et dire, si la paix, vous l'avez vue, vous savez maintenant, elle est là, vous voulez vous en emparer, mais qu'elle s'échappe. Eh bien ici, la Bible dit, poursuivez-la. C'est-à-dire, ne la laissez pas s'échapper. Certains pourraient dire, mais j'étais si près du but. Être tout près du but, ça peut vouloir dire pour quelqu'un avoir échoué. Être deuxième quelque part, ça peut vouloir dire avoir perdu. C'est le premier qui a gagné. Et donc, il est important pour nous non seulement de rechercher la paix, mais encore de la poursuivre. Et de ne s'arrêter que lorsque nous l'avons et qu'elle demeure en nous. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Et ensuite, je vais vous dire quelque chose concernant cette paix que Jésus donne. Quand Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne la paix. C'est dans Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je ne vous donne pas comme le monde donne. J'ai une paix d'une nature différente. Le monde peut vouloir faire la paix par intérêt. Je n'ai pas intérêt à me fâcher avec lui, parce qu'il peut y avoir des conséquences négatives, je peux le faire dans la peur, toutes sortes de compromis, il faut que je sois bien avec le voisin, sinon ça va être pénible, et toutes sortes de raisons comme ça. Jésus dit, ma paix est d'une nature différente. C'est une paix qui est donnée sans crainte. Vous voyez, quelqu'un peut chercher à avoir la paix avec un autre parce qu'il a peur de ce que ça pourrait avoir comme conséquence. Mais Jésus dit, moi, ma paix est d'une nature différente. C'est une paix qui est d'une force. C'est une paix qui s'impose. C'est une paix qui est puissante. C'est une paix qui n'a pas peur des conséquences. Et Jésus dit quelque chose maintenant qui va nous surprendre aussi. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Donc avec tout ce qu'on a appris sur le prince de la paix, on se dit, mais qu'est-ce que c'est maintenant ça? Il dit, je ne suis pas venu apporter une paix comme le monde. Ma paix est d'une nature différente. Ça veut dire que si tu veux être en paix avec Dieu et avoir la paix de Dieu, il faudra des fois que tu déplaises à quelqu'un, que tu ne fasses pas ce qu'il veut. Par exemple, le diable. Tu ne peux pas lui plaire et en même temps être en paix avec Dieu. Il faudra que tu l'affrontes. Et avec le diable, tu dois aussi des fois être en guerre avec le système du monde. Je ne dis pas d'être en guerre avec les gens, mais avec le système du monde, tous ceux qui veulent faire pression contre toi pour que tu n'obéisses pas à la parole de Dieu. Donc il y a des situations où nous sommes, on a l'impression de ne pas être en paix, mais en guerre, mais la guerre, elle est à l'extérieur et la paix demeure en nous. Comprenez la différence? C'est important ça. On va voir cette parole dans Matthieu 10, 34. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Et dans un autre passage, il dit encore, il détaille, il dit voilà, je mettrai la division dans une maison. Et combien ont expérimenté que quand nous avons voulu suivre Christ, eh bien tous les membres de la famille n'ont pas forcément dit alléluia, c'est formidable. Mais au contraire, eux qui avaient peut-être une religion, mais pas de relation avec Dieu, n'étaient pas contents du tout de cette situation. Et ainsi s'accomplit cette parole de Jésus, que lorsqu'on veut le suivre, il arrive qu'on déplaise à des parents ou à des gens qui étaient autour de nous. Et ainsi, j'aimerais aussi prendre ce passage qui dit « Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu ». Il y a besoin des fois d'une violence, il y a besoin de tenir ferme dans certaines choses pour justement savoir affronter le monde et permettre au royaume de Dieu de s'installer. Alors, voyons encore comment vient cette paix de Dieu. Si vous n'avez pas encore compris comment ça se passe, eh bien, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Nous avions repris ce passage dans ce que nous avions enseigné sur la joie, puisque Jésus a dit dans Jean 15, 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Alors on a dit, eh bien la joie vient de ce qu'on entend aussi, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Eh bien aujourd'hui je vais vous dire la même chose, je vais dire la paix vient de ce qu'on entend. Dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Vous voyez, de la même façon, vous entendez des paroles de Jésus, et ces paroles procurent la paix. Si vous voulez chercher la paix ailleurs, vous pouvez courir, vous pouvez la chercher, vous pouvez essayer de la poursuivre, mais vous ne la trouverez pas. Vous la trouverez seulement auprès de celui qui est le prince de la paix et qui a dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Donc, trois choses à considérer. Recherchez la paix et poursuivez-la. Abandonnez le péché, sinon c'est une fausse paix. Et troisièmement, la paix. Paix vient de ce que l'on entend. Et le psaume 85, au verset 9, nous dit aussi quelque chose à ce sujet. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. On va terminer sur ça. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. C'est nous. Il nous parle de paix. Pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Alors on va faire notre confession de foi. J'écouterai ce que dit Dieu. Car il me parle de paix. Pourvu que je ne retombe pas dans la folie. Amen.